gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, bienvenue à cette émission. Nous avons le plaisir cette semaine de poursuivre notre entretien avec l'artiste peintre et même publicitaire, Gabriel Landry. Bonjour à vous.
Bonjour, Monsieur Dubois.
Vous avez passé une bonne semaine?
Très bonne, merci.
On sent le printemps, n'est-ce pas?
Absolument.
Après ce
et ça vient vite.
Après ce long hiver. Surtout pour ceux qui viennent de la côte nord, j'imagine que c'est toujours plus rigoureux dans le nord. Est-ce que c'est plus rigoureux?
C'est plus rigoureux.
Quand vous étiez à Natashquan?
Il fut un temps, oui, oui, où ça semblait plus rigoureux. Oui. Mais,
est-ce qu'il y avait beaucoup de neige d'abord à Natashquan? Est-ce qu'il y avait beaucoup de neige l'hiver?
À l'époque, il y avait beaucoup de neige, beaucoup plus, je dirais, qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'étais tout petit, les bancs de neige paraissaient plus grands.
Mais là, on va quand même oublier la neige.
Même à Sainte-Foy, je me rappelle à l'époque, là, on garrochait, pour employer l'expression, la neige. On soufflait la neige sur les parterres, ça devenait plus haut souvent qu'à Natashquan.
Puis en fait, là, on veut un peu oublier ce passage de l'hiver qui a été long, et c'est le printemps. On sent la nature qui rejaillit, qui revit, et ça, c'est formidable pour un artiste, n'est-ce pas?
Elle nous fait revivre.
Elle nous fait revivre, que c'est bien dit. D'ailleurs, ce qui vous faisait revivre, ou peut-être pas revivre, mais qui vous animait énormément lorsque vous étiez jeune, c'était peut-être de vouloir devenir un jour un grand publicitaire. Vous aviez deux inspirations, paraît-il, quand vous étiez jeune.
Ou faire de la grande publicité.
Ou faire de la grande publicité.
Ben, en fait, oui, j'avais deux voies comme... pour revenir à l'enfance où, justement, il y avait le fameux... j'avais deux personnages de l'enfance qui m'inspiraient et me faisait dire quand je serai grand, c'est ça que je ferai. Il y avait le fameux Jean-Pierre Steven dans la populaire émission du temps « Ma sorcière bien-aimée ». Et à ce moment-là, qui travaillait comme publicitaire, ce que je comprenais pas nécessairement dans tout ce qui se faisait là, mais je trouvais ça attrayant, soit par le côté social, par le côté créatif, les maquettes qui se présentaient à la télé ou je sais pas quoi.
Vous voyez, vous êtes un des rares qui a d'abord vu Jean-Pierre Steven, alors que nous, on voyait surtout le regard de la sorcière.
Le twist du nez de la sorcière.
Oui, qui était interprété, je pense, par Elizabeth Montgomery, qui est décédée d'ailleurs. Oui. Et Jean-Pierre Steven, je pense que c'était York.
Savez-vous que je lisais très peu le générique?
Oui, mais je crois que le nom de famille était York, Dick York.
Probablement Dick que York si je m'étais arrêté à son nom, j'aurais pas pris au sérieux le rôle qu'il jouait à cet âge-là.
Mais peu importe. Et l'autre personnage important, qui lui était un personnage réel...
Ah, c'était Picasso.
Picasso.
Oui, oui. Picasso, qui me faisait rêver le pourquoi, je ne l'ai jamais su trop, probablement par la liberté qu'il prenait dans sa tête de faire ce qu'il voulait faire.
Et pourtant, Picasso, lorsqu'on est jeune, ce n'est pas nécessairement... Et là, peut-être qu'il y a des gens à l'écoute qui vont dire « Oh là !» sur ce que je veux dire. Mais au départ, lorsqu'on est jeune, il me semble que ce ne sont pas des toiles attrayantes. Parce que difficile d'accès.
Vous savez ce que Picasso avait répondu un jour? Il avait 83 ans, je pense, et il était allé voir une exposition d'enfants de 12 ans et moins. On lui avait demandé ses commentaires. Il leur avait répondu « À l'âge de 12 ans, je peignais déjà comme un Rembrandt. Je peux vous dire que j'ai pris toute ma vie avant d'être capable de faire ce qu'eux autres font. On prend très longtemps à devenir jeune. »
Fantastique.
C'est une belle image. En soi, alors, quand on dit... Probablement que Picasso se permettait des libertés d'enfance avec l'âge qu'il avait, que les peintres du temps, académiques ou autres, ne se permettaient pas. Et tout était... La créativité venait de là. Hein.
Oui.
Puis il disait toujours... Il disait aussi, je peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense. Alors, effectivement, moi, j'ai toujours évolué à partir comme on s'est parlé de thématique ou de symbolisme, etc. Et il y avait... Je rappelle aussi, il y avait Type, il y a toujours des gens qui nous marquent, là,
oui.
Des gens qui sont proches ou éloignés ou qui ne le savent pas, mais qui, bon, alors j'avais il y avait un ingénieur qui était un ami de mon père qui venait à la maison et je me rappelle, j'avais peut-être 14, 15 ans maximum, 14 ans probable, puis j'avais fait des fresques dans le sous-sol qui était plus du ciment, si on veut, pour les murs et tout ça. Et j'avais reproduit des paysages d'enfance de Natashquan qui m'avait rejoint. Et le fameux ami de mon père en question m'avait dit « C'est intéressant ce que tu fais, puis je pense que tu devrais continuer. » Mais tu sais, si tu t'en vas dans une tendance figurative, les caméras vont te dépasser bien vite. Tu ne seras jamais capable de faire aussi précisément ce que les caméras font. Va chercher des images ailleurs, dans ta tête. Il y en a beaucoup plus. Et bon, ben, cette personne-là m'a donné le premier, puis je me suis mis à... Donc, Picasso étant là, dans ma tête, le monsieur qui m'avait dit ça, j'avais un professeur d'art plastique à l'époque qui s'était adonné à aimer bon, les gribouillages que je pouvais faire en art plastique.
Alors, des images plein la tête.
Ouais.
Je vais en faire ressurgir une bien précise, parce que vous nous avez évoqué curieusement cette émission dont plusieurs se souviennent, ma sorcière bien-aimée. Voici une musique qui va sûrement vous rappeler plusieurs images, puisque c'est le thème de cette émission. Un thème composé par Jack Keller, et c'est son orchestre qui l'interprète.
Fantastique.
C'est amusant de réentendre ce thème, n'est-ce pas?
Absolument.
On voit même les personnages, on les imagine. C'est curieux d'ailleurs.
Les sons nous donnent plein d'images.
Oui, les sons créent des images et les images parfois peuvent créer des impressions sonores. J'ai lu récemment, et je fais une petite parenthèse, le livre du neurologue Sachs qui parle des impressions sonores sur l'imaginaire. Que l'on peut se créer visuellement, oui. Et il y a même des études qui vont jusqu'à dire que certaines personnes qui ont des crises d'épilepsie, on peut arrêter ces crises par la musique. Et l'inverse est aussi vrai. Parfois, des impressions sonores peuvent déclencher une activité neuronale tellement intense que cela va amener des crises d'épilepsie chez des personnes, évidemment, vulnérables à ce genre de malaise. Mais tout ça pour parler de... parce que vous évoquez des images.
Ben, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je ne me vois pas peindre sans musique.
C'est important pour vous, oui?
Ben oui, régulièrement.
Qu'est-ce que vous écoutez, tiens, justement, lorsque vous peignez?
Ben, en fait, j'écoute beaucoup de chansonniers, tous ceux dont on a pu évoquer les noms et les chansons, etc. Puis je consomme beaucoup de musique classique, mais je suis très peu connaisseur de musique en soi. Par contre, la radio aussi nous offre beaucoup de sujets fort intéressants. Je dis la musique, mais aussi des sujets d'actualité ou des sujets, des reportages ou quoi que ce soit. C'est ça qui est intéressant quand tu peins. Tu peux te laisser aller à ton tableau, mais en même temps, les oreilles sont là et puis tu peux réfléchir.
Mais vous savez, vous dites que je ne suis pas très connaisseur. L'important, ce n'est pas nécessairement la connaissance, mais l'émotion qu'on va ressentir. La même chose au plan de la peinture. Vous pouvez peindre et m'émouvoir sans que j'aie une connaissance approfondie de la technique qui vous a amené à faire cette toile. L'important, c'est, et j'imagine que c'est aussi la démarche qui est la vôtre, vous cherchez à rejoindre celui qui portera un regard sur votre toile?
Ben, oui, je... C'est ça, le tableau nous regarde aussi, hein, ouais. Je pense.
Il vit, en quelque sorte, comme le livre.
Ben, je le crois, comme qui disait le texte croit en le lisant. Finalement, le lecteur va faire évoluer le texte. Alors, je pense que c'est la même chose pour un tableau, ouais.
Oui. Vous parliez de cette écoute des chansonniers, les chansonniers qui ont baigné notre enfance, en tout cas, beaucoup d'entre nous. On pense à Félix, Léveillé,
on pense Vignon, à Brel, on pense Brel, à Ferland, on pense oui. à Béard, on pense à...
Moustaki, et voilà, on peut en nommer oui. plusieurs autres.
Les Trois Ménestrels.
Pourquoi pas, les compagnons beaucoup... de la chanson.
Absolument, moi j'ai des souvenirs fantastiques. Ben, c'est-à-dire des souvenirs, oui, là-dessus. Oui. Là,
de cette chanson émotif, française.
Là, les baladins, ou... Bon.
Qui nous faisait découvrir le monde de l'imaginaire et le monde tout court, bien souvent, à travers les mots et la musique. Bon, on va écouter deux grands chez nous. Sur une musique de Claude Léveillé, la musique qui avait pour titre L'enfance, Félix Leclerc a décidé un jour de raconter, et ça s'appelle tout simplement « Nous sommes tous nés ». Cette chanson nous permettra peut-être de parler de cette grande famille qui a été la vôtre, 15 enfants. Un beau regard que jette Félix est bien accompagné par Claude Léveillé au piano.
Avec grand plaisir.
Nous sommes tous nés, frères et sœurs, dans une longue maison de bois à 3 étages. Une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dedans et propre comme de la mie. Une maison chaude, du pain sur la nappe et des coudes qui se touchent. Voilà le bonheur, répétait ma mère à table. Puis le repas reprenait tranquillement. Nous pensions au bonheur qui sortait des plats fumants, qui nous attendaient dehors au soleil, et nous étions heureux. Papa tournait la tête comme nous pour voir le bonheur jusque dans le fond du corridor. En riant parce qu'il se sentait visé, il demandait à ma mère « Pourquoi tu nous y fais penser à ce bonheur ?» Et elle répondait « Pour qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. »
Simple de Félix, mais tellement réel, parce qu'en les entendant, on s'y retrouve à peu près tous. On a tous en tête ces souvenirs de la table familiale, de ces rencontres formidables, de ces échanges. On n'en peut rien. On revient encore aux îles de l'enfance. Vos souvenirs à vous, 15 enfants à table, c'est du monde?
Ben écoutez, moi, le 15e, j'ai pas connu en soi les 15 enfants à table, parce qu'au moment où je suis né, les plus vieux partaient pour les études.
Parce que vous êtes le plus jeune.
Je suis le plus jeune. Donc, alors à ce moment-là, lorsque je suis déménagé à Québec, lorsque je suis arrivé à Québec à l'âge de 12 ans, il y avait les plus vieux de mes frères qui y étaient déjà, que je voyais à peu près une fois par été, 15 jours. Et puis, c'était pas des étrangers pour moi, mais c'était pas des frères. C'était pas une spontanéité tout de suite. Il a fallu apprendre à se connaître, en soi, aussi curieusement que ça puisse paraître. Mais...
Qu'est-ce que vous retenez, justement, de cette grande famille? Quand on parle de 15 enfants, même s'ils n'étaient pas tous à table, vous étiez le plus jeune, mais il y avait quand même la réalité de cette famille.
Les débats d'idées, les discussions,
On parlait beaucoup?
Oui, beaucoup. peut-être trop.
Non, pourquoi dites-vous cela?
Non, mais je dis peut-être trop parce que ça m'arrive souvent de prendre la parole à certains moments où je ne devrais peut-être pas la prendre. En tout cas. Mais, alors, les souvenirs, et puis bon, je pense que c'était des discussions franches aussi.
On parlait de quoi en famille à cette époque?
On parlait de quoi dans la famille? Grande question, là.
De politique, de culture, de...
Non, curieusement, mon père a toujours été affiché politiquement. Il ne s'est jamais mêlé de politique.
Ah,
alors,
oui.
Il était marchand, puis c'était sacré pour lui, tu sais, de dire...
Donc, bon, des activités quotidiennes, du devenir des enfants...
Oui, oui, ou des contes qui se faisaient, des contes de façon tout à fait naturelle. J'avais un beau-frère, moi, qui était... un peu la tête d'Olivier Guimond, ou à peu près. On le voyait raconter des choses, et puis c'était drôle en partant. Donc, il y avait beaucoup de... Les gens, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas la télévision dans le temps, il y avait la radio seulement.
Avez-vous gardé un peu de cela? Êtes-vous un conteur né?
Oh, non, je... Ben, un conteur d'histoire pour s'amuser, oui, oui. Je pense que le plaisir, il faut qu'il soit là.
Est-ce que vous avez la nostalgie?
C'est souvent, l'humour est souvent la meilleure façon de prendre la vie au sérieux.
Est-ce que vous avez la nostalgie de cette époque où les familles étaient nombreuses, où évidemment le monde n'est plus celui d'autrefois, sans être nostalgique, on peut en garder un bon ou un mauvais souvenir, tout dépendant?
J'en garde un excellent souvenir, et puis c'est sûr que moi, je pense que je suis rendu à quelques centaines de neveux et nièces, si on veut, dans la famille. Et je me sens peut-être plus près de mes neveux les plus vieux, avec qui la plus vieille nièce, par exemple, je peux avoir un an d'écart.
Et oui, voilà.
Le frère juste avant moi avait 3 ans, sauf que les autres avaient un an entre eux. Alors
donc le sens de la famille, c'est cultivé quand même, c'est préservé au fil du temps.
Ah, absolument, oui, oui. C'est effectivement...
C'est important.
C'est serré, mais on est capable de se parler dans la face, comme on dit.
Est-ce que c'est ce qui vous a amené un jour à faire de la politique? Parce que vous avez touché à la politique.
Si je parle de politique à ce moment-là, est-ce qu'on se parle vraiment dans la face en politique? C'est ça qui est malheureux des fois. Peut-être pas assez.
Vous avez tenté votre... J'allais dire votre chance, c'est pas une chance, mais vous avez tenté de vous faire élire à la mairie, je crois.
Non, comme
c'était
échevin. À Longueuil comme échevin.
Comme échevin.
Oui, c'était une expérience qui a été fantastique, qui a duré 3 mois et 3 800 portes à pied. C'est fantastique. Mais voilà, c'est du passé, puis je me rends compte que je n'étais pas nécessairement fait pour la politique.
Mais vous vous intéressez quand même à la chose politique.
Dans le sens de l'actualité politique, oui, beaucoup. Et tous les grands thèmes qui peuvent... qu'on peut aborder en société, oui.
Quand on parle de grande famille et qu'on revient quelques décennies en arrière, on se rappelle peut-être aussi les messes du dimanche.
Ah oui, les messes du dimanche, puis les messes quotidiennes ou presque de la part de mon père, parce que c'était dans sa pratique quotidienne ou à peu près. Non?
Vous me disiez que votre père poussait parfois la note?
Absolument, parce que il y avait toujours un patois qui était patience, puis ça lui en prenait beaucoup, de toute façon, avec les enfants, ma mère surtout aussi. Qui poussait la note, oui, parce qu'il avait été... C'était un chanteur... il aimait beaucoup le chant grégorien, il chantait à l'église, et puis voilà. Ouais, ça a été...
Alors, je vais vous rappeler un beau souvenir. On va entendre un extrait de la Messe des anges de Palestrina. Comme on la chantait, cette messe, autrefois, en latin, le Gloria de cette messe, interprété ici par la Scola Grégorienne de l'Université de Strasbourg.
Je vais écouter avec beaucoup d'attention.
Gloria in excelsis Deum, et in terra pax sanguinibus, gloria voluntatis, gloria. Thank you.
Vous entendez pareille chose, Gabriel Landry, est-ce que ça fait surgir encore en vous un souvenir vivant ou est-ce que vous vous dites c'est de l'époque ancienne, c'est maintenant plus adapté?
Non, je pense que j'ai justement un disque de musique grégorienne de l'abbaye.
De Saint-Benoît-du-Lac?
De Saint-Benoît-du-Lac, dont je parlais, dont on se mentionnait, et puis... c'est toujours présent. Je pense que la musique, comment peut-on dire, le classique est une mode qui dure. Alors, je pense que le chant grégorien, c'est un état d'être. Et puis, oui, moi, ça me rejoint. À plus forte raison, avec des liens qui peuvent se rapprocher affectivement par rapport à mon père, etc.
Quand vous entendez comme ce que nous venons d'entendre, le Gloria de la Messe des Anges, c'est vraiment très, très associé à ce qu'on pouvait entendre lorsqu'on était très jeune, lorsque la messe était dite en latin. Est-ce qu'il y a des images qui vous reviennent spécifiquement à l'esprit? Le départ pour la messe, par exemple, ou le retour, le repas du midi, ou... Est-ce qu'il y a des images fortes que cela fait surgir en vous?
Mais curieux quand même, on parlait dans l'émission précédente de l'exposition à l'église de Natashquan dans le cadre du 150e, et je voyais le chemin de croix, par exemple, qui est de l'époque où on m'a dit que c'était mon père, finalement, qui l'avait offert à l'église à l'époque.
Ah, et
alors, ça faisait un peu spécial d'aller accrocher des tableaux en dessous, si on veut, parce que les images qui me reviennent, ben oui, mais il y avait toujours, pour moi, une grande liberté de pensée ou de religion. Ou de, je suis moi-même très croyant, mais en me disant que... quelqu'un a déjà dit, la spiritualité, c'est la main, et la religion, c'est le gant. Alors, si je veux toucher quelqu'un, j'enlève un gant. Alors, je sais pas où trop mon discours me mène, là, mais voilà, c'est des images, rien de sévère pour moi, quelque chose de tout à fait naturel. Je pense qu'il... Mon père ou ma mère ne m'ont jamais entraîné à la messe de force. J'ai jamais senti ça. Donc, c'était d'un naturel pour eux. Alors,
et ce retour aux sources, d'une certaine façon, avec cette exposition que vous avez tenue l'été dernier dans cette église de Natashquan, qui a remporté d'ailleurs un grand succès, un vif succès. Il y a eu de nombreux visiteurs qui sont allés voir ces toiles. Ce doit être quand même assez valorisant et assez émouvant de retrouver ces œuvres au sein de l'église de son enfance.
Qui nous a vu baptiser, en tout cas.
Oui,
puis je me posais la question, on parlait de coïncidence déjà, là, mais c'est assez spécial qu'un projet comme ça me mène là, parce que c'était pas du tout... en tout cas, c'était pas du tout prévu sur le chemin. Et ça, c'est d'ailleurs...
ça fait partie des cadeaux de la vie,
voilà,
que de... d'avoir cette possibilité de retrouver ses sources.
Oui, parce que l'exposition s'est tenue en 2008 à Montréal, à deux endroits, au cinéma du Parc, à la galerie du cinéma du Parc, et puis à l'église Saint-Pierre-Apôtre, en face de Radio-Canada, le bijou patrimonial, là,
oui,
si on veut. Et ensuite de ça, au musée Pierre Boucher, l'hiver passé, et cet été à Natashquan. Donc, la route, ça s'est fait... C'est un peu comme la création, on ne sait pas toujours où on sort. C'est-à-dire, on essaie de se donner une orientation, mais on ne sait pas comment on va y aller, puis où on va arriver.
Parlant de retour aux sources, la pièce Source, Claude Léveillé, André Gagnon.